Ça vient juste de tomber, comme ce n'était pas dans notre bulletin de nouvelles, je me permets de vous le dire. Pour ceux que ça intéresse, le nombre de nouveaux cas de COVID au Québec qui vient tout juste d'être révélé en date d'hier, c'était 707 nouveaux cas. 707 nouveaux cas, donc toujours stable, tendance à la baisse. Donc, c'est encourageant. On va parler d'autre chose. On va parler tout de même de santé. Il y a une nouvelle que je trouvais intéressante qui va vous intéresser également parce que ça touche beaucoup de gens. Puis je sais que vous êtes nombreux à m'avoir écrit puis on en a même discuté ensemble. Vous êtes toujours soucieux de votre poids. On sait que le poids représente un poids dans la vie de bien des gens qui sont... Il y en a qui s'aiment pas. Vous savez que c'est fou, là. On dit qu'au secondaire, il y a plus de la moitié des jeunes, filles et gars, qui ne sont pas satisfaits de leur allure corporelle. On prône de plus en plus la diversité corporelle. Et là, la nouvelle qui est sortie, entre autres, ce matin, c'est que là, on reconnaît l'obésité comme... On veut refaire reconnaître l'obésité comme une maladie. C'est ce que de plus en plus de spécialistes prônent, même au Québec. On sait que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'a reconnue. L'obésité serait une maladie. Au Canada, il y a plus de 5 millions d'adultes, dit-on, qui souffrent d'obésité. Donc, on dit, c'est important de le reconnaître comme une maladie parce que ça va nous permettre de mieux la prévenir et de mieux la traiter. Évidemment, ça fait réagir beaucoup de gens qui disent, ben voyons donc, être gros, c'est pas une maladie. C'est pas parce qu'on est gros qu'on est malade. Et c'est pas parce que t'as un petit peu... selon les normes de la société, que tu es en embonpoint, que tu es forcément aussi quelqu'un qui doit être pointé du doigt et qu'on doit médicaliser. C'est entre autres un peu le discours de ma première invitée là-dessus. Elle a publié un livre que j'avais trouvé fort intéressant et qui se prononce contre la grossophobie, parce que la grossophobie, c'est-à-dire la grossophobie, ça le dit, c'est la peur des gros, la phobie des gros d'être gros. C'est quand même une grosse affaire à dire. Là. Quand on est grossophobe, c'est juger l'autre parce que son poids représente à nos yeux un problème. Donc, elle a écrit le livre « Grosse et puis ». C'est Édith Bernier qui est consultante et conférencière. Bonjour Édith.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes spécialisée justement dans la lutte contre la grossophobie. Vous êtes pour l'inclusion des personnes grosses dans la société. Vous avez un blog, La Backpackeuse Taille Plus, pendant plusieurs années qui s'est consacrée à tout ça. Quand vous voyez une nouvelle comme celle-là, Édith, quelle est votre réaction? Reconnaître l'obésité comme une maladie, d'après vous, être gros, est-ce que c'est une maladie?
Bon, c'est sûr que c'est dur d'avoir une réaction qui est tout noire ou tout blanche. La première chose, je pense, qui est importante de dire, c'est que je vois que l'intention derrière un mouvement ou un regroupement comme celui-là, je vois que c'est positif. Par contre, il y a un truc qu'on appelle impact over intent, hein? Donc l'impact au-delà de l'intention. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact de faire déclarer l'obésité comme une maladie? En fait, si c'était pas qu'il y a déjà autant de stigmatisation envers les personnes grosses, et ça, c'est un message que Miguel Bergeron et moi, on passe depuis plusieurs années, c'est qu'il y a déjà tellement d'impact, donc, de stigmatisation envers les personnes grosses, si on rajoute en plus l'aspect médical, la médicalisation, la pathologisation, ça en rajoute juste une couche de plus à quelque chose qui est déjà, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, extrêmement lourd. Je pense aussi au fait que ça vient aussi présenter le fait d'être une personne grosse comme quelque chose qu'il faut absolument guérir ou absolument éliminer. Donc, ça nous met jusqu'à un certain point presque une cible dans le dos, là. Dans le fond, c'est que c'est comme si le fait d'être une personne grosse est une situation qui est de un, temporaire, transitoire, mais aussi de deux, comme quelque chose qui devrait ne plus être. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de rajouter cet aspect maladif, et en passant, je me permets une petite correction, l'OMS a déjà déclaré en effet que l'obésité était une maladie. Ils commencent à tergiverser un petit peu plus. Ils sont un petit peu moins forts sur cette approche-là. Je vous dirais depuis quelques années. Ils présentent plus ça désormais comme un facteur de risque qui mène à d'autres maladies, mais un facteur de risque parmi tant d'autres. Hein. On peut parler d'une activité, du tabagisme, du stress, etc. Donc, Donc, moi, ce que je vois, hein, si je résume vraiment, c'est que l'intention est bonne et cette intention-là, elle est très menée au Canada par une organisation qui s'appelle Obésité Canada. Le problème, en fait, c'est qu'Obésité Canada, et même si le Canada dans le nom, c'est important de savoir que ce n'est pas un organisme qui est relié au gouvernement, c'est que cet organisme-là, même s'il se dit là comme un défenseur des personnes grosses, en fait, je les suis depuis plusieurs années, ce que je réalise, c'est qu'ils sont plutôt des défenseurs pour les personnes grosses de faciliter l'accès aux moyens de maigrir.
Ouais, ouais,
ils sont des défenseurs des personnes grosses qui veulent maigrir. Donc, il ne faut pas voir toutes les personnes grosses comme étant dans cette situation-là. Oui, il y a des personnes grosses qui veulent maigrir. Oui, il y a des personnes d'autres qui ont des maladies qui sont reliées à leur poids, mais ce n'est pas le cas de tous. Donc, de forcer la définition de l'obésité comme étant une maladie, ça génère beaucoup, beaucoup de conséquences. Et ça fait l'affaire justement de certains organismes qui veulent, et de certaines organisations pharmaceutiques aussi, dont les médicaments seraient probablement couverts désormais par la RAMQ. Et c'est là où j'ai aussi un problème avec un organisme comme Obésité Canada, parce que vous avez probablement vu les pubs comment perdre du poids.ca. Donc, Obésité Canada est derrière ces pubs-là en partenariat avec la compagnie qui fait les médicaments Contrave ou Contrave, qui est un des médicaments en fait fait pour maigrir. Donc, moi, quand je regarde un peu tout ce qui se passe derrière ça, j'ai énormément de difficultés à me dire oui, c'est vraiment forcément dans mon intérêt, là.
Ouais.
Sans tomber dans la grosse conspiration, là.
Ouais. C'est
quand
aussi...
même, j'ai de la misère à avoir mon intérêt là-dedans. Là.
Oui, exactement. Vous-même, vous vous considérez comment, Edith?
Je me considère grosse depuis à peu près toujours. Je suis née grosse et j'ai toujours été grosse.
Puis vous vivez bien avec ça?
Ben oui, plutôt, en fait, moi, j'ai appris ou j'ai découvert que j'étais grosse et que c'était un problème, surtout dans le regard des autres. C'est le genre de truc que j'aborde dans le livre, c'est que moi, dans ma famille, bon, à part des petites taquineries quand j'étais plus jeune, parce que j'étais un bébé de 10 livres, je veux dire, mon corps n'a jamais été un problème. Et à un moment donné, c'est quand il a fallu que je commence à mâcher des vêtements pour aller à l'école. En fait, c'était surtout quand ma mère faisait ça quand j'étais plus petite. Et quand on a commencé à m'intimider à l'école, j'ai réalisé que, oh, j'ai un problème. Et en fait, je regarde les photos de l'époque, là, et honnêtement, je vous le dis, là, j'étais pas grosse. Donc, maintenant, je considère que je le suis. Et moi, tant que je sors pas chez nous, et c'est ça qui fait peur, en fait, c'est que ça peut créer beaucoup d'isolement, le fait d'être une personne grosse. Je veux dire, avant Internet, du moins, ça se passait assez bien. Mais là, c'est que même dans nos repères, et même quand on se replie, on a encore les médias sociaux qui viennent nous rappeler qu'être gros est un problème. Et là, si en plus, on nous rajoute que l'être gros est un problème, que c'est une maladie et qu'il faut le guérir, ça commence à faire beaucoup de choses, en fait, là, qui contribuent, en fait, à la stigmatisation. Et je pense que peut-être que la solution, ça serait plutôt de passer par l'éducation populaire, en fait, en amont. C'est avant de dire, OK, l'obésité est une maladie, on pourrait peut-être passer dans le grand public et avec le soutien des médecins, comme le docteur Robitaille qui est mentionné dans l'article auquel vous référiez.
Oui.
Parce que visiblement, ce médecin-là veut bien faire. Là. C'est-à-dire, moi, je le vois. Là. Je suis pas aveugle à ça. Mais peut-être que c'est pas la bonne façon, du moins à mes yeux. Parce que il y a tellement de gens, en fait, qui vivent cette expérience-là et qui ne veulent pas nécessairement agir de façon médicale contre leur poids ou sur leur poids, mais c'est comme si l'expérience des personnes grosses comme moi, comme des millions d'autres, n'est pas considérée. On écoute les médecins, on écoute les nutritionnistes, mais on n'écoute pas les personnes grosses qui sont les principaux.
Mmh. En même temps, Edith Bernier, il y a des gens qui vont vous dire, et en particulier, c'est un peu le discours des médecins, puis même certaines personnes l'ont vécu, certaines personnes qui avaient de l'embonpoint. Quand on parle d'obésité morbide, où les gens sont plus bien et ont plein de maladies chroniques, parce que on dit quand même que l'obésité est associée à de nombreuses maladies chroniques, l'hypertension, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'arthrose, il y a même certains types de cancers. Il y a beaucoup de documentation là-dessus.
Faut faire attention, par exemple, c'est pas associé. L'obésité est un facteur de risque pour ces
ouais,
choses-là.
Facteur
mais les
aggravant,
personnes grosses
ouais.
ne sont pas toutes diabétiques, pas nécessairement aggravant non plus, c'est un facteur de risque. Le tabagisme aussi est un facteur de risque pour
exact.
Toutes ces choses-là.
Ouais.
Et on ne sait pas c'est lequel le plus important entre le tabagisme, l'inactivité, le poids. Donc, il faut prendre ça pour ce que c'est. Je ne dis pas que ça
beaucoup
va
de
pas
gens vont dire que beaucoup de médecins m'ont dit à moi en entrevue que c'était le tabac qui était le
bon,
plus dommageable.
Ouais.
Après le sucre.
Bon, mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un facteur de risque. Ouais. C'est pas une personne grosse qui est automatiquement cancéreuse, diabétique,
non, exact,
hypertendue, exact. Etc. Ouais. Et c'est pas toutes les personnes minces qui ne sont pas hypertendues et métaboliquement problématiques. Là. Mm. Il y a ça aussi. Et je pense qu'il faut voir aussi le fait qu'une personne qui est grosse, ça peut être une personne qui est en train d'aller mieux. Hein. Ça peut être une personne qui se remet d'un trouble alimentaire. Ça peut être une personne qui récupère d'une dépression, d'une période difficile dans sa vie pendant laquelle elle a perdu du poids de façon dramatique. Ça peut être une personne qui se remet d'un cancer. Ça peut être une personne qui va dont la santé va en s'améliorant. Mm. Et à l'opposé, perdre du poids n'est pas toujours un bon signe. Ça peut être un signe de l'inverse de tout ça, donc d'un trouble alimentaire, de pas bien manger.
Mais pourquoi on juge, Edith, à ce point-là, les personnes grosses? Qu'est-ce que ça va chercher chez nous là, qui fait qu'on a envie de les pointer du doigt?
Ben en fait, on a été élevés comme ça, là. Je veux dire, on est tous grossophobes et moi, je suis la première à l'admettre. Là. Moi aussi, ça m'arrive des fois d'avoir des réactions puis de faire comme, voyons, Edith, qu'est-ce que tu fais là? Donc, on a été élevés comme ça, comme les personnes grosses représentent le pire cauchemar corporel imaginable, qu'elles représentent de la paresse, qu'elles représentent de la laideur, qu'elles représentent de la négligence, du laisser-aller, de l'inefficacité. C'est comme ça qu'on est représenté partout et ça commence dès les dessins animés pour enfants. Donc, les personnages gros, je mentionnais une étude dans mon livre, sont soit des méchants ou toujours des sidekicks, là, des partenaires des héros, mais qui sont jamais assez bons pour être des héros parce qu'ils sont un petit peu trop foufou ou parce qu'ils sont un petit peu trop maladroits ou farfelus. Ou alors, comme je disais, ils sont des méchants. T'sais. Regardez juste dans Disney, les gros qui sont positifs et qui sont des leaders, il n'y en a pas. Donc, c'est quelque chose sur quoi on peut commencer à travailler. Pourquoi on pourrait faire une autre entrevue complètement?
Oui, effectivement, vous avez raison. Merci beaucoup, Edith Bernier. Je trouve que vous êtes tellement très, très loquace et pertinente là-dessus. Là. Je recommande votre livre à toute personne là, qui s'intéresse aux défis de notre société. Il y en a un beau, là. Ça s'intitule « Grosse et puis ».
En voulant dire, et qui va sortir d'ailleurs en France l'an prochain.
Ben, j'ai vu ça, mais bravo, Edith. Oui, c'est ça, grosse. Et puis, j'aime bien le titre parce que ça veut dire, et puis, pourquoi ça te dérange tant que ça? Là?
Exact.
On peut-tu vivre et laisser vivre? Hein? Ça serait
voilà, vous avez tout compris.
Merci beaucoup, Edith Bernier. Donc, autrice, elle a écrit Grosse et puis, connaître et combattre la grossophobie. On va s'interroger là-dessus, vous et moi, si ça vous tente de jaser de ça. Je vous demande, est-ce que vous êtes insatisfait de votre poids? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le sont, beaucoup de jeunes aussi, avec tout ce que ça veut dire en termes de troubles alimentaires, de contrôle du poids, de contrôle de son image, de pas être bien dans sa peau, ça le dit, pas être bien dans sa peau, pas être bien dans son corps. C'est pour ça que je trouve que tout le discours qui nous amène à être un peu plus... Tout le discours de la diversité corporelle, là, je le trouve positif. Je trouve que c'est inspirant parce que ça veut dire à tout le monde, garde, aime-toi donc comme tu es. Puis oui, t'as peut-être une couple de livres de trop selon la société, mais qui a dit qu'il fallait peser tel poids? Vous allez me dire, ah, il y a le poids santé. Bien, très bonne, vous voyez, je vous entends réfléchir. Le poids santé, on va en débattre après la pause avec un médecin. C'est quoi le poids santé, d'après vous? Êtes-vous de poids santé, vous? Pour discuter de tout ça, 514-790-9850. Ça fait beaucoup de dommages, tout ça, n'empêche. Hein? Il y a des gens qui se polluent la vie avec ça, qui ne sont jamais bien, toujours en contrôle. Ils regardent un plat de poutine puis ils se disent, oh mon Dieu, ils y pensent toute la journée. Ou alors, ils se sentent vraiment coupables. Peut-être c'est votre cas. Si c'est les, ne vous gênez pas pour m'appeler. On en discute ensemble. 1-866-790-9850. Alors, est-ce que vous êtes insatisfait de votre poids? On discute de ça parce qu'il y a de plus en plus de spécialistes au Québec qui demandent qu'on reconnaisse l'obésité comme une maladie en justifiant le fait qu'à partir du moment où c'est une maladie, bon, on va pouvoir y mettre de l'argent, on va pouvoir investir dans la prévention, dans des traitements également. Valérie, comment vous voyez ça, vous? Bonjour.
Bonjour Isabelle. Écoute, je suis un petit peu en réaction avec la dame qui vient de passer là où ce que
Edith Bernier, oui.
Ouais, c'est ça exactement. Moi, j'ai eu des problèmes de poids toute ma vie, c'est un combat de toute une vie. Puis moi, je suis très contente qu'enfin, ça puisse être traité. C'est sûr, il y a toujours deux côtés à une médaille, là, mais le fait que ça puisse être traité au niveau médical, puis que ça peut être reconnu comme étant une maladie, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui voient pas de solution. C'est sûr, il y a toujours les solutions médicales avec la médication et tout ça, mais tu sais, moi, je me rappelle, je l'ai vécu, puis dans le temps, il n'avait pas de solution comme ça. Moi, ce que je me suis fait dire par un médecin, c'est « Tu veux perdre du poids? Ben, arrête de manger, puis va courir. » Ben, tu sais, quand tu pèses 260 livres, aller courir, là, c'est difficile à commencer.
Ouais.
C'est sûr que moi, je pense que c'est l'ego qui m'a pris un coup, fait que je l'ai fait, mais tu sais, je veux dire, après ça, j'ai perdu comme 105 livres, mais c'est un combat de tous les jours. Moi, mes chirurgies, ça n'a pas passé sa rame cul, puis j'ai dû passer par là, mais j'ai dû les payer de ma poche parce que c'était pas reconnu, justement. C'était jugé esthétique, mais un gros qui perd du poids, beaucoup de poids, c'est pas beau. On est encore, en tout cas, moi, je me sentais encore moins bien que quand j'étais grosse, avec toutes les résidus de peau qui étaient là. Fait que pour moi, qu'enfin ça soit reconnu, je suis contente. Je pense pas que ça doit être le remède à toute chose, les pilules puis les chirurgies gastriques couvertes. Je pense que ça peut être un moyen supplémentaire pour soutenir les efforts puis aider les gens à travers leur souffrance. Ouais. Mm-hmm.
Dites-moi, Valérie, Édith Bernier disait tout à l'heure, moi, j'ai toujours été gros. J'étais un enfant gros, j'étais un bébé gros. Elle n'a pas de maladie reliée à l'obésité. Donc, est-ce que vous, c'est un peu le même background que vous avez? Vous avez toujours été comme ça?
Oui, il y a pas mal, d'autant que je regardais mes photos, là, je dirais que c'est pas mal réglé, mais c'est un combat quand même de toute une vie. Puis moi, je me rappelle pas, même jeune enfant, je me rappelle pas d'avoir été bien dans mon corps, là. Fait que de dire qu'il n'y a pas de grossophobie, c'est pas vrai. On te le fait savoir. Moi, en tout cas, je peux jamais, aussi loin que je me rappelle, jamais je peux dire que j'ai été bien étant grosse. J'ai toujours cherché des moyens jusqu'à temps que à un moment donné, ben, il y a peut-être un médecin qui a été plus ouvert, qui m'a accompagné là-dedans, qui m'a soutenu, tout ça. Mais aujourd'hui, je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de solutions. C'est pas des remèdes miracles, c'est un appui à la motivation. Mais je pense que les médecins vont être peut-être plus outillés pour aider les gens.
Ouais.
Parce que quand tu pèses 300 livres, là, aller au gym, je pense, tu sais, c'est très décourageant à commencer par là.
Ouais. Et bien, tout à fait. Puis, en fait, on disait pas qu'il y avait pas de grossophobie. On disait qu'il y en avait beaucoup trop.
Oui, énormément.
Il y en a beaucoup de la grossophobie, c'est sûr, c'est inquiétant. Vous avez eu une chirurgie bariatrique, Valérie, de ce que je comprends?
Non, moi j'ai eu des chirurgies considérées esthétiques dans le temps pour arranger un peu les surplus de peau dus à la perte de poids. Non, moi j'ai eu la méthode dure. Je suis allée au gym, j'ai perdu, mais tu sais, ça fait 10-15 ans que je suis en processus. Puis oui, ma balance, je monte de ça tous les matins. Puis oui, là, le confinement, là, en plus, je suis en arrêt de travail, j'ai une blessure, j'ai pris du poids, là. C'est sûr que c'est une hantise de redevenir comme j'ai été. Fait que c'est une préoccupation à tous les jours, là.
Ouais. Merci. Je le trouve vraiment, vraiment bonne d'avoir tout ça, mais surtout de l'avoir fait par vous-même, parce que c'est excessivement difficile, hein.
Oui, puis à tous les jours, puis c'est comme la toxicomanie, c'est comme les dépendances. Oui, il y en a, comme elle disait Mme Bernier, ça peut être relié à, admettons, une dépression, t'as pris du poids, mais généralement, quand t'es gros depuis que t'es petit, c'est tout ton système de valeurs, les habitudes qui sont acquises, faut tout défaire ça.
Mais justement, Valérie, est-ce que, parce que vous dites, moi, j'étais pas bien, mais est-ce que vous étiez pas bien parce que vous vous êtes vite rendu compte, comme Édith, que le regard des autres était trop lourd sur vous à cause que vous étiez grosse, ou vous étiez pas bien et que ça venait de vous? Est-ce que c'est les autres qui ont induit ça?
Ben les deux, c'est sûr. Si je me serais faite accepter ou si j'aurais pas eu de difficulté, exemple, à m'habiller comme tout le monde ou à être en relation de couple où je me sentais désirable, moi, peut-être que ça m'aurait moins dérangée. N'empêche que quand je regarde une grosse puis une belle fille, admettons, là, tu sais, avec un poids santé, mais encore là, santé, bon, c'est large, là, mais c'est sûr que avec les critères de la société, ça l'aide pas à se sentir bien, c'est clair, là.
Ouais, fait
qu'il y en a qui se sentent bien, je suis bien contente pour eux autres, mais moi, ça n'a pas été mon cas, ça a été très lourd, puis ça aurait pu être ouvert avant, je pense que ça m'aurait sauvé beaucoup d'années de détresse.
Ouais, donc vous dites, Valérie, c'est une bonne chose, finalement, qu'on considère que c'est une maladie.
Oui, mais c'est sûr qu'il y a toujours deux côtés à une médaille. À un moment donné, ça peut... Tu sais, ça peut, tu vois, pour un emploi, ben si eux, ils jugent que c'est un critère pour te mettre de côté, parce que aussi, on a déjà entendu parler. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas aucune situation qui est parfaite. Mais moi, dans mon cas, avec ce que j'ai vécu, moi, j'aurais été bien contente d'avoir eu ça dans le temps.
Voilà. Ben merci beaucoup, vraiment. Restez à l'écoute. On va prendre vos coordonnées. J'aimerais beaucoup avoir votre numéro. Valérie, qui représentait l'autre côté de la médaille aussi, comme quoi que tous les gens sont pas égaux par rapport à leur apparence aussi, à leur problème ou non. Il y en a qui le voient, leur poids, comme un problème. Il y en a d'autres, ben si t'es pas malade, tu le subis pas. Ce que tu peux subir, toutefois, c'est le regard des autres. Le docteur Maurice Larocque est avec nous. Il a écrit un livre. On trouvait que c'était vraiment pertinent ce matin de l'avoir d'abord parce que c'est un spécialiste depuis plus de 40 ans qu'il s'intéresse à l'obésité. Et il l'a publié, puis on l'avait déjà reçu à ce moment-là. Il a publié un livre qui s'intitule « L'obésité n'est pas une maladie ». Docteur Larocque, merci d'être avec nous. Êtes-vous toujours d'accord avec votre titre?
Oui, je suis toujours d'accord. Plus hier, moins que demain.
Voilà. Mais vous dites l'obésité n'est pas une maladie. Bonjour, docteur. En même temps, il y a de plus en plus d'experts québécois qui se rallient un peu à ce que pensait l'OMS déjà depuis quelques années, c'est-à-dire que l'obésité, c'est une maladie. Je relisais encore ce matin sur le site de l'OMS. On parle carrément d'une épidémie mondiale. Un synonyme d'épidémie mondiale, c'est la pandémie. Fait qu'on parle de pandémie d'obésité avec près de 3 millions de personnes au moins qui, chaque année, en meurent sur la planète. C'est même donc plus que la COVID jusqu'à maintenant. Je ne veux pas faire de lien où il n'y en aurait peut-être pas, mais quand même, quand on parle de pandémie d'obésité, Dr Larocque, c'est grave, là.
En 1997, si ma mémoire est bonne, l'Organisation mondiale de la santé a sorti justement que c'était la première fois qu'une maladie non contagieuse était étiquetée comme pandémie mondiale parce que il y avait de plus en plus de, évidemment, une épidémie d'obésité à l'échelle mondiale à peu près tous les pays. Alors, dans ce sens-là, bon, il y a eu une double réaction face à ça. L'idée de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire, ben, les gens qui souffrent de surpoids et d'obésité, ils sont malades, ils sont souffrants physiquement. Il y a beaucoup de maladies associées, dont le diabète type 2. On parle de maintenant d'épidémie de diabète type 2 reliée aux gens qui sont en surpoids. 90% des diabétiques ne seraient pas diabétiques s'ils étaient à leur poids santé. Alors, donc, on voulait que les médecins, que la recherche soit plus importante, que les médecins s'intéressent d'une façon plus efficace à ça, et d'où l'idée de dire que l'obésité est une maladie.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec ces médecins? Vous êtes membre d'un groupe de chercheurs, justement, à l'Université McGill, qui utilise des techniques d'IRM pour traiter l'obésité. Vous avez beaucoup, beaucoup étudié la chose. Est-ce que vous comprenez le fait que des spécialistes comme vous au Québec disent, ben là, il faut absolument que chez nous aussi, on reconnaisse l'obésité comme une maladie?
Je suis tout à fait d'accord. Et je suis content de voir, je lisais dans la presse justement l'article ce matin où on faisait le point là-dessus.
Ouais.
Et je pense que, pour moi, une chose qui est excessivement importante, on sait par exemple que la COVID a tué, bon, au-dessus de 10 000 Québécois dans la dernière année. L'obésité au Québec tue au-delà de 5 000 personnes par année. Alors, on a des chiffres un peu semblables, alors que la moyenne de gens qui sont décédés de la COVID était autour de 35 ou 40 par jour. L'obésité tue tous les jours, toutes les années, 25 personnes par jour au Québec. Et c'est sous-estimé. Alors, c'est au-delà de 5 000 personnes au Québec qui meurt tous les jours. Et au Canada, on peut multiplier par 4, puis dans le monde, puis aux États-Unis, on peut multiplier par 50.
C'est extrêmement important ce que vous nous dites, là, parce que ça veut dire que c'est un problème pour beaucoup de gens. Mais pour vous, est-ce que c'est possible quand même d'être gros, puis de ne pas avoir de maladie, puis d'être bien dans sa peau?
J'ai goût de dire non. Est-ce que ça existe? Ça se peut. Parce que tout existe. Mais tôt ou tard, il y a un prêt payé. Je vois comme cette semaine, je faisais l'inventaire des gens que j'ai vus en cabinet. Le trois quarts avait probablement 50 et 100 livres de trop. J'ai quelqu'un qui a un indice de masse corporelle que j'ai vu mardi à 88. Ça, c'était le plus élevé. Il pèse 540 livres. Il y a de plus en plus les gens souffrent d'obésité morbide et on sait que leur espérance de vie diminue au moins de 8 et 16 ans, dépendant de l'intensité. Alors, ça diminue et ça augmente le diabète type 2, l'hypertension. 75 % des gens qui ont un problème de poids hypertendu ne seraient pas hypertendus. 40 % les cancéreux, 40 % le facteur alimentaire et avec l'obésité, c'est des indices qui augmentent le risque de cancer. La COVID, en France, ils ont sorti quelque chose, mais ici, on l'a vu, il y a une tempête inflammatoire dans la COVID et qui est surtout chez les gens qui ont un problème de poids. Alors qu'en France, il y a 12 % de la population qui est considérée comme obèse. Il y avait 87 % qui est de gens aux soins intensifs qui étaient obèses. Alors, on sait très bien que c'est un facteur de risque important. Alors, moi, pourquoi je disais que l'obésité n'est pas une maladie, c'est parce que, bon, oui, on peut moins manger, on peut faire plus d'exercice, mais ce qu'on oublie de dire beaucoup, c'est la gestion du stress et des émotions. On se sert de la nourriture. Valérie a fait un témoignage vraiment très, 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 très pertinent et elle a réussi à perdre 105 livres par elle-même, etc. Bon, tantôt, juste avant qu'on se parle en ligne, j'avais un patient, lui, qui a perdu 100 livres et ça fait déjà 7 ans aussi qu'il travaille à le maintenir. Mais, tu sais, moi, je dis aux gens qui ont un problème de poids, puis même une obésité morbide, réussir à maigrir, c'est réussir sa vie aujourd'hui. Si ce soir, vous vous couchez disant « j'ai fait les choix qui me conviennent pour améliorer ma santé physique et mentale, j'ai réussi ma vie aujourd'hui et je vais en ressentir émotionnellement les bienfaits. » Alors, faut pas voir ça comme dire « ah ben là, quand j'aurai 100 livres de moins ou 40 livres de moins, ouais, là, je vais être heureuse. » Mais non, il y a des gens qui sont plus malheureux à 40 livres de moins. Alors, c'est une...
Voilà, et ça sincèrement, j'en ai rencontré des gens qui sont plus minces aujourd'hui parce qu'ils se sont privés ou même qui ont eu des chirurgies bariatriques et qui le disent « si j'avais su, je serais resté gros ». Donc, c'est pas toujours synonyme de bonheur d'être mince. En même temps, est-ce que le fait d'être gros, c'est toujours synonyme de éventuellement « tu vas payer le prix », comme vous venez un peu de le dire? Et il y a un stigmate aussi qui est collé par la société sur le fait d'avoir un corps qui ne représente pas les stéréotypes considérés de beauté, de poids santé. On va revenir d'ailleurs sur la notion de poids santé avec le docteur Larocque, si vous voulez bien, docteur Larocque. Restez là, on va aller à la pause. Il y a pas mal de gens qui vont nous dire comment ils voient ça. Je vous demande si vous êtes satisfait ou insatisfait de votre poids. Beaucoup de Québécois là, qui cherchent toujours à maigrir, parfois ben, c'est via toutes sortes de régimes. On cherche toujours la pilule miracle. Puis je vous le dis encore ce matin, puis le docteur Larocque pourra confirmer, il n'y en a pas de pilule miracle pour perdre du poids. On va revoir qu'est-ce qui marche pour ceux qui veulent et qui se le font dire par le médecin, qu'est-ce qui marche le mieux. 514-790-9850 de l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Beaucoup de gens qui m'écrivent également à isabelle@985fm.ca. Il y a des gens qui m'appellent également, comme des cardiologues qui nous écoutent. C'est le cas du docteur Gilles Goulet, qui est cardiologue à l'hôpital de Verdun. Bonjour, docteur Goulet, je suis contente que vous écoutiez l'émission. Êtes-vous d'accord avec ce qui se dit?
Oh, écoutez, je suis en train de faire ma télémédecine et puis je vous écoute dans le fond là-bas. Et puis le point du docteur Larocque là sur, c'est un excellent point sur le nombre de mortalités par obésité là au Québec. C'est vraiment important. Mais le point que je voulais rajouter, c'est que qui dit obésité ajoute comorbidité. Il y a plus de développement du diabète. Il y aura plus de gens qui vont faire de l'hypertension artérielle. Évidemment, toutes ces choses sont reliées vers la maladie coronarienne qui m'intéresse, que je traite tous les jours, ainsi que les hypertendus. Ce que je vois, c'est que depuis un an, on a demandé aux gens de s'immobiliser. On les a empêchés de faire de l'activité physique. Pour moi, ma clientèle qui a 65 ans, 75 ans, ce sont des gens qui allaient un peu au gym, qui allaient un peu dans l'aquaforme, qui faisaient du bowling, qui bougeaient un peu. Et ces gens-là, on les a immobilisés. Et conséquence, c'est que ma clientèle, 50% des gens se disent plus essoufflés depuis mars dernier. Parce qu'ils ont mangé plus, ils ont bu plus, mais ils ont pris du poids et on les a déconditionnés à l'exercice physique. Et on sait que chez les patients plus âgés, on est facilement déconditionné à l'exercice et ça nous en prend plus pour se reconditionner. Mon dernier point, et Dr Larocque sera d'accord avec moi, c'est que on va voir de plus en plus d'obèses plus jeunes. Et donc, si on a plus de jeunes obèses, on aura plus de comorbidité, plus de diabète plus tôt, plus d'hypertendu plus tôt de ce qu'on devrait voir, et le développement de maladies coronariennes va survenir plus tôt de ce qu'on voit maintenant. Mm-hmm. Donc, le fait d'avoir immobilisé les gens, les jeunes, comme les plus vieux depuis un an, là, je pense au gym, aux piscines, à toutes ces activités où on les permettait de bouger, va sûrement avoir une onde de choc peut-être plus importante de ce qu'on a vu avec la première vague et la deuxième vague, de ce qu'on aurait dû voir sans le COVID. Alors, le fait d'immobiliser les gens aura sûrement un prix à payer dans les prochaines années.
Ah oui. Mais dites-moi, Dr Goulet, comme cardiologue, comment vous arrivez à... Parce que je comprends tout à fait ce que vous dites, puis c'est très juste, c'est vous le spécialiste, et comme le docteur Larocque en même temps. Comment réconcilier le discours aussi de l'acceptation de la diversité corporelle? Le fait de stigmatiser les personnes grosses ou qui sont de plus en plus obèses en leur disant, ben vous êtes malade, faut vous faire soigner, faites-vous opérer, prenez telle pilule, mettez-vous au régime, ça les aide pas non plus,
ça. Ça les aide pas. En fait, il faut faire attention. Il y a des gens qui vont essayer de prendre tous les moyens possibles pour pouvoir amoindrir leurs problèmes. Et Dr Larocque sera d'accord avec moi. Si on essaie de faire bouger les gens, quelque peu soit-il, habituellement, il y a une série, il y a un effet en cascade des autres facteurs qui les placent à risque pour développer des problèmes de santé éventuellement. Par exemple, si on demande aux gens de faire un peu plus d'exercice, habituellement, ils vont essayer de faire plus attention à leur alimentation et, dans la très large majorité des gens qui se mettent à l'exercice, vont arrêter de fumer. Alors, oui, il faut faire attention il ne faut pas stigmatiser les gens, mais au contraire, il faut essayer de les faire, les amener avec nous à changer leur habitude de vie pour pouvoir avoir un impact au niveau de leur poids et surtout au niveau de leur qualité de vie.
Mm-hmm. Ouais, merci beaucoup. Restez à l'écoute. On va prendre vos coordonnées. Docteur Maurice Larocque, là-dessus, j'imagine que vous secondez votre collègue, Docteur Goulet?
Tout à fait, on est sur la même longueur d'onde. J'ajouterais quelque chose. Autant pour faire de l'exercice et tout ça, ça fait partie évidemment d'un bon hygiène de vie, d'une bonne santé. Mais une chose que vous parliez de tantôt des recherches qu'on a fait avec l'Université McGill. Et ce qu'on a découvert avec l'Université McGill, on avait de la résonance magnétique, on mettait les gens dans l'appareil, on mesurait différentes choses, on mesurait toutes les hormones, et on s'est rendu compte que le facteur important dans soit la perte ou le gain de poids, c'était ce qu'on se dit dans notre tête. Au niveau des centres temporaux frontaux pariétal, c'est là que c'est le centre de nos pensées, c'est ce qu'on se dit dans notre tête, ce qui va faire qu'on va faire de l'exercice, qu'on n'en fera pas, qu'on va bien manger ou qu'on ne mangera pas bien. Et ça, dans tout ce qui est suggéré comme traitement, on parle de chirurgie, médicaments, c'est vrai qu'il y a pas de panacée, puis que... Ça prend plus. Il faut que les gens réalisent que ce qu'on se dit dans notre tête... Ouais. C'est ça qui est le plus important.
Mais est-ce qu'on a le droit de se dire, moi, je suis une personne grosse, puis je m'aime de même? Est-ce qu'on a le droit de se dire ça?
On a le droit, mais on va payer le prix.
Forcément. Pour vous, c'est clair comme
de l'autre. Oui. Ah ben oui, les gens ont discuté à marcher, ont discuté à monter les escaliers, ont discuté à aller aux toilettes et s'essuyer comme il faut, ils ont de la difficulté à, non, il y a un prêt à payer. Bon, on peut vouloir le payer, c'est correct, moi je respecte ça, mais tu sais, comme tantôt, une personne qui a 100 livres de trop vient me voir, je l'avais déjà vu, etc., il dit « j'ai pas de volonté ». Moi, j'ai dit non, c'est pas vrai. Je veux dire, il a bien réussi professionnellement, etc. Et on se fait croire des choses. Un homme me disait ce matin, ma santé est très importante pour moi. Il pèse 350. J'ai dit, je te crois pas, parce que si c'était vrai que ta santé est importante, tu fais quelque chose. C'est parce qu'elle n'est pas assez importante, c'est pour ça que tu le fais pas. Dans tout ce qu'on propose comme traitement, le fait d'exercice, de bien manger, tout ça, c'est vrai. Mais on oublie d'amener les gens important de réaliser que ce qu'on se dit dans notre tête, alors c'est nos pensées et ce qu'on ressent, parce que nos pensées vont nous amener à ressentir des choses, donc de la culpabilité, de l'anxiété, de la colère, de la déprime, de la tristesse. Et ça, la nourriture, c'est la drogue favorite de la population. Il y en a beaucoup qui sont sur d'autres.
Mais vous avez vu la réaction épidermique par rapport à la fermeture des restos, le popcorn dans les cinémas. Je veux dire, c'est tout notre lien à la bouffe là, aussi qui est en cause. Là. Ouais.
Ben oui, mais c'est véhiculé dans la publicité comme c'est ça qui va te rendre heureux. Alors si on, souvent les gens ont ce qu'on appelle l'hyperphagie ou des boulimies, alors ça gèle l'émotion temporairement. Ouais. Mais une fois que l'effet est passé, une heure ou deux après, on tombe dans le même problème. Alors je pense que ce qui manque en gros dans le traitement, moi j'appelle ça le traitement de la personne qui a un problème de poids. On traite pas l'obésité, on traite la personne qui a un problème de poids, l'humain. Et c'est pour ça que j'appelais ça l'obésité n'est pas une maladie comme telle, c'est plus le résultat de comment on pense et des émotions qu'on ressent. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça? La réponse est oui. J'étais en train d'écrire le 15e livre qui tient compte de justement du rôle de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent.
Ben, on va s'en parler après la pause. Vous nous donnerez quelques petits cues là-dessus, puis on a des gens qui veulent intervenir. On fait ça tout de suite après. Chantal est avec nous. Bonjour Chantal.
Bonjour.
On vous écoute sur tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui vous interpelle?
Ben moi, je considère que c'est une maladie. Moi, j'ai perdu 100 livres par mes propres moyens. Et puis, j'ai trouvé ça difficile justement à cause de la peau et tout ça. Moi, mon ventre a passé sur la rame cul. Mais tu sais, mes seins, non, c'était tout... Puis, veux pas, quand tu vas passer une entrevue, là, ben quand ils voient que t'es ronde, là, c'est sûr et certain que pour eux, c'est une maladie d'être grosse aussi. Puis, ça fait juste nous aider, qu'est-ce que Dr. Robitaille veut faire. C'est vraiment juste ça. Je vois vraiment rien de négatif là-dedans. Parce que moi, je suis grosse depuis toujours. Je suis avec un homme qui mange, mon Dieu, des glucides, en veux-tu, en v'là. Il mange des bonbons, des palettes de chocolat. Il mange ça à journée longue. Il paye 140 livres. Il mesure 6 pieds. C'est quasiment enrageant pour moi. Puis moi, je veux dire, je vais manger un petit morceau de gâteau, puis tout de suite. Fait que déjà, quand on se fait voir les gros, là, souvent, c'est comme, ah ouais, mais c'est parce qu'elle mange des chips, c'est parce qu'elle mange des cochonneries, c'est parce qu'elle fait rien. Mais quand j'ai commencé à maigrir, moi, j'ai maigri par moi-même. Alors, j'ai commencé à rapetisser énormément, mais je vous le dis, là, je mangeais dans une assiette à dessert. Je mangeais très peu pour réussir à maigrir de 100 livres. Et je faisais 6 jours semaine, 1 heure de vélo à tous les jours. Fait que c'était vraiment... C'était plus que n'importe qui normalement a fait pour maigrir, là, tu sais, juste pour entretenir son poids. Puis je me suis sentie tellement mieux, là, je peinture, je peux être plus à genoux, je peux. Puis c'est vraiment une maladie parce que là, moi, je fais de l'arthrose. Pourquoi? Parce que j'ai un surplus de poids. C'est pour ça. Fait que les gens qui disent je suis gros puis je suis bien de même, à quelque part, c'est sûr que ça va les rattraper. Parce que, tu sais, si tu promets toujours avec 40 livres de poche de patate sur le dos, là, un moment donné, veux pas, ton dos va payer pour, tes genoux vont payer pour, tous tes pieds vont devenir plus plats. Tout va être comme ça. Fait que c'est pas vrai. C'est vraiment une maladie pour moi. Puis si quelqu'un peut nous aider, oui. C'est pas parce qu'on veut avoir l'air des pitounes ou ça. Moi, j'ai maigri de 100 livres, puis j'en ai encore 20 à perdre. Puis je me trouve belle. Puis même quand j'étais... Il y a des gens même, qui me disaient, quand j'étais plus ronde, ils me disaient, t'es vraiment belle pour une grosse. Hey, je trouvais ça assez insultant.
Oh mon Dieu, vous êtes fait dire ça, vraiment?
Ouais, mais je faisais ça par une de mes clientes. Fait que là, j'étais comme... J'ai tellement resté la bête. Mais moi, j'ai un beau visage. Je suis dans le public souvent. Puis les photographes, ils me disent toujours, t'es vraiment photogénique. Fait que c'est sûr que quand t'as un surplus de poids, puis tout, tu dis, Colin, j'aimerais ça. Pas peser 120 livres, mais je peux-tu peser 180, là, tu sais, là. Juste pour pouvoir, moi aussi, me trouver sexy un peu. Fait que si Docteur Hôpital peut aider, oui. Puis je pense pas que n'importe quelle femme grosse. Moi, une chanson que j'aime beaucoup, c'est. Une chanson de Mika, c'est Big Girl, You Are Beautiful. Je trouve ça beau. Une femme grosse, c'est bien. Puis mon chum, j'ai été la première femme avec qui j'ai été, qui est plus ronde. Puis Mané, j'ai dit, t'as toujours eu, j'ai vu les photos, t'as toujours eu des mecs, tu sais. Puis il me dit, oui, mais il dit, moi, je savais pas trop, Chantal, quoi faire quand que la première fois qu'on a fait l'amour, tout ça. Mais il dit, je me suis rendu compte que, t'sais, ben ouais. C'est le fun de la viande. Mais c'est que là, on est parti à rire avec ça. Mais j'ai probablement beaucoup de relations que j'ai pas eues parce que j'avais surplus de poids. Ou par après. J'ai beaucoup d'hommes parce que il y a 3 ans, moi, je suis tombée toute seule. J'ai beaucoup d'hommes qui étaient comme, ben tabarouette, elle est vraiment funny, elle est vraiment, parce que c'était tout le temps un mur, les hommes quand ils regardent ta photo, oh ouais, elle a un surplus de poids, mais ça veut pas dire qu'elle fait rien la fille, puis qu'elle mange tout le temps, puis que non, c'est pas ça, puis on est déjà stéréotypé de toute façon, les gens ils voient qu'on est rond, ils pensent tout qu'on mange des patates frites,
mais oui, Chantal, c'est fait, restez, on va prendre votre numéro de téléphone, puis ça c'est pour vous, Chantal. Ça, c'est une bonne toune, ça?
J'adore ça!
Merci! Merci beaucoup! J'ai trouvé ça fabuleux, votre témoignage. Merci, on va prendre vos coordonnées. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose?
Ben, écoute, non, je voulais juste rajouter que je trouve ça génial que tu fasses un sujet comme ça, puis que les femmes peuvent s'exprimer comme ça, puis on est tous belles à notre façon, mais l'important, c'est que nous, on se trouve belles dans le miroir, puis c'est sûr qu'avec un petit peu moins de poids, c'est sûr, n'importe quel plus gros.
Ça aide un peu, vous dites, ouais. Ben, c'est ça, moi, j'essaie de réconcilier les deux, c'est-à-dire dire aux gens, oui, pour votre santé, tous les médecins le disent, je veux dire, le docteur Larocque est avec nous, le docteur Goulet, cardiologue, qui confirme, tous les jours, on le voit, puis je pense que c'est quand même assez largement documenté. En même temps, il faut plus faire la grossophobie, il faut se laver la bouche avec du savon quand ça nous vient, ce jugement de dire, voyons, regarde donc la grosse. C'est surtout envers les femmes aussi, je trouve qu'on a ce genre de... Un gars plus gros, oh, une petite bedaine, une grosse bedaine, ça passe mieux. Tu sais, t'as juste à regarder à la télé les modèles de gars, là, tu sais, c'est... Alors, ce qui est bien, là, tu sais, il est arrivé dans la vie. Une fille grosse, ça passe moins bien. On dirait qu'on a de la misère. Merci, Chantal. Oui. Martine est avec nous. Bonjour, Martine. On vous écoute.
Oui, bonjour. Moi, j'ai toujours été... je suis née grosse aussi, là. Puis, c'est rien que dernièrement que j'ai eu une chirurgie bariatrique.
Oui.
Puis, toute ma vie, là, j'ai... Ma vie, elle aurait été tellement différente si je l'aurais eu avant.
Ah oui, pour vous, ça a changé beaucoup de choses. Et ça vous a permis de perdre beaucoup de poids?
Oui, j'ai presque 100 livres de perdu. C'est tout nouveau, ça fait pas longtemps.
OK.
Puis, mais moi, c'est pas parce que moi, je me sentais mal ou que j'étais mal dans ma peau ou quoi que ce soit. C'est qu'à presque tous les jours, il y avait quelqu'un qui était là pour me le dire. Je suis au coin de la rue, j'attends l'autobus, puis il arrête même l'auto pour me dire « Hey, la grosse! » Tu sais. Même si je prenais l'autobus, il y a même un chauffeur d'autobus qui m'a dit « Tu sais qu'il y a un maximum de poids qu'on peut prendre dans l'autobus? »
Ah, ben voyons donc!
Oui, je vous dis. Puis, je faisais des exercices, je faisais de l'aquaforme. Tu sais, je me faisais écœurer, mais je faisais tout ça. J'avais des amis qui voulaient que je fasse du sport avec eux autres. Je voulais pas, parce que je voulais pas qu'il y ait honte par rapport à moi. Ah. Il y a bien des affaires que j'aurais pu faire, mais du vélo, j'en faisais souvent. Je me faisais tasser par « Hey, tasse-toi, gros! Ah ouais, plus vite! C'est pédale, tabarnak! » C'était toujours, excusez le mot, là.
Ouais, non, mais je comprends le concept. C'est fou, pareil.
C'est exactement ce qu'on me disait.
Ouais.
Là, c'est là que moi, je me sentais mal. Puis c'est là que moi, là, je voyais. Puis, problème de santé, là, je veux dire...
Vous en aviez à l'époque, oui?
Non, même pas. Non. Moi, je travaillais dans un laboratoire, puis à tous les ans, il fallait faire un bilan de santé. Mais jusqu'à 50 ans, mon bilan de santé était meilleur que toutes les autres qui étaient plus jeunes que moi.
Puis après?
J'avais pas de pression, j'avais pas de diabète. Puis là, tout le monde, voyons, comment ça se fait? Ils sont trompés dans ton... On me disait, ils sont trompés.
Mm.
Parce que moi, je suis...
Mais est-ce qu'après, vous en avez eu des problèmes de santé?
Oui, ça a commencé là, depuis 3 ans, 3-4 ans. Là,
Martine, restez comme pour les autres, je vais prendre vos coordonnées parce que j'aime bien faire des suivis avec les gens qui nous appellent comme ça. Je trouve ça le fun de pouvoir garder contact. Je termine avec vous, docteur Larocque. Bon, on dit le poids santé, c'est quoi? Ça pourrait faire l'effet d'une autre entrevue. Il nous reste 30 secondes, mais voyez là, Martine, elle, c'est après 50 ans, comme vous dites, elle s'est faite un peu rattraper. Votre nouveau livre, ça va s'intituler comment?
Maigrir par magie.
Maigrir par magie. Oh, mon Dieu, vous avez des bons titres.
Oui.
Oui. En fait, votre titre est toujours l'inverse de ce que vous dites dans les livres, finalement. Puisqu'il n'y a pas de pilule magique, pour maigrir.
Non, il n'y en a pas. Mais à l'intérieur de nous, je pense que c'est important. Moi, ce qui me touche,
c'est
le témoignage de Valérie et de Chantal. Je veux dire qu'ils donnent de l'espoir. Ces gens-là ont perdu 100 livres par eux-mêmes. Donc, c'est faisable. Et
voilà.
Il y avait Jean-Pierre que j'ai vu ce matin.
Merci, docteur Larocque. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. L'émission se termine. Merci beaucoup, docteur Maurice Larocque, spécialiste d'obésité. À demain, tout le monde.